entre Guzmán y Ocasio Gasal, qui réduit totalement ce qui
se passe.
Bonjour à tous et merci de nous avoir choisi. Le monde célèbre la journée mondiale du donneur de sang chaque année, le 14 juin, pour rendre hommage aux millions de personnes qui donnent leur sang pour sauver des vies ou aider des malades à recouvrer la santé. Cette journée sensibilise à la nécessité de donner régulièrement du sang afin d'éviter les pénuries dans les hôpitaux et les dispensaires, en particulier dans les pays en développement où les quantités de sang disponibles sont très limitées. Sur les 80 pays où le nombre de dons est inférieur à 10 pour 1000 habitants, 79 sont des pays en développement. Le thème de la Journée mondiale des donneurs de sang 2012 est « Chaque donneur du sang est un héros ». Et la RDC fait aussi face à ces problèmes de carence du sang, soit par manque des banques de sang, soit par manque des donneurs dans plusieurs localités. Quelle est la situation de l'accès aux services de transfusion sanguine dans votre milieu? Nous en parlons avec le docteur David Ndakala, directeur national adjoint du Centre national de transfusion sanguine. J.R. Lungembo, Tukumputu, Dieudonné Nyangasa assure la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngata. Pierrot et la Meiji vous la présentent. Et pour intervenir dans Parole aux auditeurs, appelez-nous au 081-890-6315-mlapa.radiocapi.net, mais aussi déposez votre commentaire sur la page Facebook de Parole aux auditeurs.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Nous faisons le point avec vous sur la situation des services de transfusion sanguine dans les milieux où vous êtes, dans le centre de santé, dispensaire, hôpital, partout où vous êtes. Vous allez nous témoigner, vous allez poser des questions, mais nous allons aussi faire jeter un coup d'œil à ce qui concerne les dons de sang. Comment cela est-il organisé dans votre milieu? Nous en parlons, comme je venais de le présenter, avec le docteur David Ndakala, directeur national adjoint du Centre national de transfusion sanguine. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on a discuté l'année passée avec le docteur Yuma autour de cette journée, on nous avait dit qu'en 2010, les statistiques parlaient seulement de 36% des transfusions sanguines qui étaient réalisées en RDC, que les sang qui provenaient des donneurs bénévoles. Est-ce que les choses ont évolué aujourd'hui à travers le pays par rapport d'abord à ces sang qui provient des donneurs bénévoles?
Merci, c'est ici l'occasion de dire merci à la radio Okapi qui nous donne l'occasion de faire le point par rapport à la situation de la sécurité transfusionnelle dans notre pays. Tout droit, je vais aller pour répondre par rapport à cette première question. Effectivement, le problème des dons provenant des donneurs bénévoles se pose encore et la situation n'a pas beaucoup amélioré par rapport à l'année passée. Et si bien que donc le résultat à notre possession, donc c'est de fin 2011, font état de 33%, n'est-ce pas, de dons provenant de donneurs bénévoles. Il y a une légère baisse. Mais du côté des familiaux, nous sommes à 63%. Et donc voilà, il y a toujours ce problème. Et si nous pouvons prendre les 10 dernières années, nous varions entre ces pourcentages-là, 33, 34, 35.
Mais on remarque quand même qu'il y a eu une légère baisse, une baisse de 3%, si on peut le dire, au niveau du Centre national des transfusions sanguines. À quoi attribuez-vous ce manque d'intérêt, n'est-ce pas, à avoir des donneurs bénévoles?
Ce qu'il faut préciser, c'est que ces chiffres-là, c'est une moyenne nationale. Et si nous prenons la ville de Kinshasa, la situation est tout à fait différente, parce que là, nous avons vraiment avancé. Nous sommes, n'est-ce pas, à plus de 75%, n'est-ce pas, des dons en provenance des donneurs
bénévoles.
Donc, ce que nous donnons là, ce que j'ai donné en premier lieu, c'est une moyenne nationale. Et il y a des endroits, dans des provinces, n'est-ce pas, où les dons, effectivement, même plus élevés, par exemple à Goma, où nous avons 100% des dons qui proviennent, n'est-ce pas, des dons bénévoles. Bon, à Bukavu également. mais vous me posez la question de savoir à quoi est dû cela.
Oui.
Vous savez que le don bénévole, c'est un problème qui touche l'homme. Il est culturel, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile que l'homme puisse adhérer au don bénévole de sang, comment dire, facilement. Et donc, il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation intense, n'est-ce pas, qui touche donc les cibles que nous visons, de manière à ce que nous puissions arriver à un changement de comportement, que les gens adhèrent, n'est-ce pas, au don bénévole. Donc, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs déterminants qui font que on ne puisse pas avoir une proportion de gens qui des donneurs bénévoles qui augmentent.
Voilà. Avant d'écouter les auditeurs qui sont sur les antennes, c'est là mais ça va vous poser la question sur les structures, parce que quand on parle de dons de sang, cela veut dire qu'on doit quand même avoir ces sangs, il faut le recueillir, il faut le conserver quelque part. Et aujourd'hui, la situation par rapport aux banques de sang à travers le pays, y a-t-il eu d'amélioration, y a-t-il eu des hôpitaux qui se sont ajoutés en nombre de banques de sang par rapport aux années passées? Quelle est la situation par rapport aux banques de sang?
Merci beaucoup, ça c'est une très bonne question, mais d'abord, juste pour rappeler, nous sommes structurés à trois niveaux selon le système de santé de notre pays. Donc il y a le niveau central où nous sommes là, au CNRS, mais il y a le niveau provincial où nous avons les centres de protection des transfusions sanguines. Et maintenant, au niveau des zones de santé, dans chaque zone de santé, il y a ce qu'on appelle le centre hospitalier de référence pour la transfusion, qui est une structure où on accueille les donneurs, où on peut collecter le sang et où on peut également, n'est-ce pas, le qualifier et pouvoir le distribuer. Et de ce côté-là, effectivement, ces structures sont en place, je veux dire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a fait comme effort? C'est que nous pouvons vous donner comme statistique, c'est que sur le 515 zones de santé aujourd'hui, à travers le pays, là on trouve les centres hospitaliers de référence sur des transfusions, on peut recueillir, on peut qualifier et distribuer. Nous avons 348 banques de sang qui sont normées, cela veut dire ici, c'est là où nous avons placé déjà des équipements avec un plateau technique acceptable et qui peut, n'est-ce pas, pouvoir recueillir les dons, les qualifier et les donner au niveau de ceux qui en ont besoin. Ce qui n'est pas déjà mal. Ça fait à peu près, si nous calculons rapidement, c'est 68% de couverture en banque de sang. Nous sommes dans les 68% de couverture en banque de sang. Mais cela ne veut pas dire que dans les autres, on ne transfuse pas. Dans chaque hôpital de référence, hôpital de référence, on transfuse, parce que la transfusion, c'est une activité, c'est un acte médical. Nous trouvons des médecins qui sont sur place. Même si le plateau technique, en termes d'équipement, n'est pas encore là.
Pour la conservation.
Pour la conservation. Mais le personnel, personnel est formé. Les réactifs sont à ce niveau-là. Et on teste, si bien que nous pouvons dire qu'en termes de couverture, n'est-ce pas, en sang testé, nous avons, d'après les informations à notre possession, 90%, donc 90%, pratiquement dans toutes les structures où le sang est testé. Voilà ce qui nous donne les dernières statistiques.
Voilà, on va écouter Arsène, Victor et Gabriel qui sont en ligne par rapport à cette journée de don de sang. Votre intervention, ça peut être soit les points sur le terrain, dans votre hôpital, là où vous êtes, les problèmes qui se posent, mais aussi votre contribution, votre proposition pour qu'il y ait l'amélioration. On va vous écouter, messieurs. Je rappelle encore, c'est au 081-890-6315 où il faut appeler pour intervenir en direct dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Arsène, vous êtes apicultrice dans les bandons de bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
On vous écoute.
Ok, moi, je crois que le don de sang, ce sont d'abord des actes qui sont d'une noblesse professionnelle. Parce que c'est lié, comme le disait notre invité, à la culture, à la religion et tout consort, et voire même à la volonté personnelle. Mais alors, pour qu'on puisse augmenter, il faut aussi la motivation. Je vais donner un exemple. Il y a un jour, on passait une émission ici sur la malaria, je crois, et pour mieux intervenir, je suis allé tout droit vers l'hôpital de Kangombi, ici à Kipi. Arrivé là, et j'ai trouvé un malade qu'on devait intervenir d'urgence. Alors, je me suis dit, ça peut faire quelque chose, et je peux donner aussi mon apport à ce malade-là. Alors, il fallait prendre du sang.
J'ai dit, bon, ok, moi je suis donneur universel, je peux donner le sang à la dame qu'on est en train de soigner. Je suis allé et on a fait des examens. D'abord, la première chose que je suis en train de déplorer, c'était quoi? Les examens ont été payables. La famille du malade devait payer. Ça, c'est la première chose. Si j'ai donné presque un litre de sang, après les examens, ça, personnellement, ça ne m'a rien fait, un litre de sang. Avec ce un litre de sang, au lieu de directement donner au malade, il a fallu payer à deux tranches. Donc, un pot de 500 mg, quelque chose comme ça, et deuxième pot aussi de 500 mg. 15 000 francs, 15 000 francs. Alors, moi, ça m'a étonné. Comment moi qui donne le sang, je donne gratuitement. Mais arriver, au lieu d'aller d'urgence vers le malade, c'était conditionné, monsieur. Je vous le dis, ça m'a éclairé que le personnel soignant qui était là, vous voyez le malade gémir qui déjà allait dans la salle d'opération pour être passé sur une opération. On devait se tracasser pour trouver 30 000 francs pour payer le dépôt. Là, ça décourage. On m'a dit qu'un mois après ou quelques 28 jours après, je pouvais redonner le sang. Mais comment est-ce que je peux avoir le courage de rentrer dans un centre et donner mon sang? Parce que moi, j'en ai assez. Mon corps, Dieu l'a fait, j'ai la chance d'avoir le sang correct, ma santé est correcte.
En suivant ce témoignage, on peut dire que votre souci est qu'il ne serait pas mieux que la famille du malade puisse payer l'argent pour le sang qui a été donné bénévolement par un donneur. C'est ça ce qu'on peut retenir.
Non. Je crois que ce qui est donné gratuitement doit aller gratuitement à destination. Moi, ce que je suis en train de situer, c'est comment ça peut-il se faire que moi, je donne mon sang gratuitement pour aider mon compatriote qui est malade, et au même moment, on les facture. C'est ça, la complexité de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas facturé, je serais prêt de rentrer encore une fois ou deux fois, donner mon sang pour que quelqu'un qui est malade puisse bénéficier de mon sang. Voilà, c'est ça le problème. Il faut motiver les donneurs pour que les donneurs, quand ils vont là-bas, ils sont contents. Parce que quand on donne avec la bonne foi et la bonne volonté, on est content de rendre service à quelqu'un.
Merci.
Mais quand ce service-là n'est pas bien accepté et est facturé après, là, ça ne marche pas.
Merci, merci beaucoup, Arsène, de ce témoignage. Notre invité pour nous répondre comment on procède quand il s'agit de recevoir le sang qui provient d'un donneur bénévole. Faudrait-il payer, oui ou non? Et c'est votre préoccupation. Nous avons Victor qui est à Walikale. C'est au nord qui vous. Bonjour, Victor.
Bonjour, M. Pierrot. Je dis, je profite de cette occasion de saluer tous les enfants africains qui vont célébrer bientôt leur journée internationale.
Et d'ailleurs, nous aurons demain vendredi une émission consacrée, bien sûr, à l'enfant africain. Sur les antennes de Radio Capi, dans Parole aux auditeurs, on va parler de l'enfant africain. Ça sera avec beaucoup de plaisir de pouvoir saluer ces enfants. On revient alors à la situation des transfusions à Walikale où vous êtes. Vous avez un hôpital, il y a des centres de santé. Dites-nous un peu comment ça se passe quand il s'agit de transfuser à Victor.
Oui, merci M. Perrault. En ce qui concerne le problème des transfusions sanguines ici dans le territoire de Walikale, je peux vous dire que cela pose vraiment beaucoup de problèmes, surtout chez les enfants. Je dis cela parce que moi, je suis un parlementaire d'enfants, je suis le porte-parole territorial du Parlement d'enfants dans le territoire de Walikale. Quand je suis essayé de passer dans les différents hôpitaux, je viens de constater que les problèmes de la nuit causent beaucoup plus les morts d'enfants dans les différents dispensaires et les hôpitaux et les hôpitaux. Et c'est là, moi je pense que tout cela se passe parce que les donneurs du sang, vraiment, ne sont pas bien encadrés. Donc, par exemple, ici chez nous, nous avons une association dénommée Association des donneurs du sang de Walikale et Adesawa. Mais vous allez voir que ces gens-là ne sont pas bien encadrés. Il y a parfois où il y a carence du sang dans l'hôpital, et vous allez voir, cela vraiment cause beaucoup de morts d'enfants. Voilà. Donc, ce sont les enfants qui sont beaucoup plus les victimes de ces problèmes-là. Donc, comme proposition, moi, je peux demander à nos autorités donc, de pouvoir bel et bien encadrer ces donneurs du sang-là, afin que le problème de l'anémie ne puisse plus intervenir beaucoup, que ça ne puisse plus beaucoup tuer les enfants dans notre territoire de
l'Italie. Merci beaucoup, Victor. Voilà. Merci, Victor. Vous avez dit qu'il y a une association Asso d'Assawa, c'est ce que vous avez dit, association des donneurs de sang de Walikale, mais malheureusement, ils ne sont pas encadrés, ce qui fait qu'il y a des fois carence du sang à l'hôpital et que les enfants puissent mourir pour l'anémie. Merci beaucoup. Nous avons Gabriel qui est à Kalima. Kalima, c'est dans la province de Maniema. Bonjour, Gabriel.
Bonjour, Yapiro, et bonjour aussi à notre invité. Ok, concernant le sujet du jour, ici chez nous en Kalima, M. Pierrot, c'est très grave. Vous imaginez, dans notre hôpital général de référence, il n'y a pas même les sachets là, les ACD. Nous en manquons dans un hôpital général. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand vous avez un cas du soin, on vous donne seulement l'ordonnance. Vous recourez vite au niveau de la pharmacie. Vous avez trouvé un sachet du soin, c'est pour 6 000 francs. Les sources là de transfusion, c'est pour 1500 francs. Maintenant, vous comptez maintenant 1500 francs. Si vous arrivez à l'hôpital, on vous dit maintenant, cherchez la personne à qui on va lui enlever les sons. Si vous avez trouvé la personne aussi à son tour dit que non, il faut m'enlever moi les sons, il faut me donner du lait, il faut me donner du sucre et me donner aussi 10 dollars. Avec tout ce va-et-vient là, vous avez retrouvé votre malade sur le lit. Pour qu'il même mourir.
Voilà, merci.
Deux bonnes préoccupations à votre invité. Auparavant, moi, je voyais même si la personne se retrouve dans le groupe A ou bien dans le groupe B, maintenant, il peut donner la personne qui se trouve dans le groupe zéro positif. Maintenant, pour le cas, il faut que zéro positif puisse donner aussi à zéro positif. Je ne sais pas.
Voilà, là c'est un peu plus technique. Voilà, c'est un peu plus technique. Hein. L'invité pourra nous expliquer quel groupe peut donner à quel groupe peut recevoir de qui. Un peu en bref, on pourra avoir cette explication pour permettre aux auditeurs de comprendre. On termine cette première série avec Marc qui est ici à Kinshasa. Bonjour Marc.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Merci Marc. On vous écoute par rapport à la transfusion sanguine ici à Kinshasa.
Merci beaucoup. Je suis un étudiant en médecine. Je suis en train d'analyser cet aspect-là de façon un peu plus technique. Ce que moi, j'essaie de constater, c'est qu'il n'y a pas, de sensibilisation dans ce domaine-là. Le problème, c'est la sensibilisation. Est-ce que celui qui est au fond du pays, ou même celui qui est ici à Kinshasa, les pauvres citoyens, est-ce qu'il est informé qu'en donnant des sorts, on sauve une vie? C'est quelque chose que, d'abord, de la tête du pays, le ministre d'abord lui-même, la journée comme celle-ci, il se tient là-bas, on connaît le sang du ministre pour des inutiles. Et qu'est-ce qui pourrait empêcher les pauvres citoyens d'emboîter ces pas-là? La sensibilisation n'est pas faite, monsieur les journalistes. Alors, ce que moi je peux dire, c'est que dans ce projet de transfusion sanguine, on donne des fois beaucoup d'argent pour la sensibilisation. Mais, pragmatiquement, rien ne se voit. Moi, je demande à ce que le gouvernement puisse aider vraiment ce culture-là à sensibiliser d'abord les citoyens. C'est ça le premier point pour moi, sensibiliser les citoyens. Et en deuxième position, du matériel. Le sang n'est pas de l'eau ou de quoi qu'on donne directement comme ça. Les sangs doivent être étudiés. Il y a des sangs qu'on prend chez une personne et qu'on prend chez une autre. On doit s'assurer du facteur de risque, du groupe sanguin de la personne et même de tout ce qu'il y a comme microbe dans le sang de celui qu'on prenait. Puisqu'on peut prélever du sang et donner à quelqu'un d'autre, ça lui donne encore une maladie. Et maintenant, ici, est-ce qu'on a ces matériels-là pour analyser le sang qu'on transfuse? Les centres de santé qui sont chez nous, au fond, qui sont au village, qui sont gérés par les infirmiers. Est-ce qu'il y a ces matériels-là? La transfusion sanguine cause beaucoup de décès dans notre pays, du fait que, et même les infirmiers ne sont pas bien formés, ont aussi l'absence du matériel, et il n'y a pas aussi de sensibilisation pour avoir ces sangs-là qu'on doit transfuser.
Merci beaucoup, Marc. On va écouter directement Corneille qui est à Canada et on revient pour que notre invité puisse réagir à toutes les préoccupations des auditeurs. Corneille, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Vous êtes à Canada.
C'est Corneille, moi, pas de Canada.
Voilà, on vous écoute, Corneille.
Ok, Je comptais tout d'abord l'avis de l'auditeur que je viens de décéder sur l'antenne, parce que lui insiste beaucoup plus sur la sensibilisation. Mais jusqu'alors, moi, je peux dire que le problème n'est pas, il ne concerne pas la sensibilisation. Mm-hmm. Parce que tout le monde sait que en donnant le sang, on sauve une vie de la personne. Qu'est-ce que moi, j'ai remarqué ici sur place à Kananga? Tu pars dans une banque de soins, tu déposes les soins gratuitement aux bénévolats, comme on insiste toujours. Des fois, on te remet une boîte de sardines et une bouteille de bière. Tu prends et tu consommes. Ceux qui ne voient plus te remettent quelque chose ou ceux qui ne servent à rien pour sa vie qui s'y a risqué. Mm-hmm. Mais, au cas où on amène un malade à l'hôpital, on remarque que les mêmes sangs-là que tu avais donné gratuitement pour sauver la vie, on les vend à plus cher. Je prends mon cas. Moi, j'ai amené ma petite sœur, il n'y a même pas de cela 3 semaines à l'hôpital. Elle avait le problème du sang. On a dit, soit des hypothèses s'opposent, soit vous cherchez une personne auquel on peut tirer les sangs et on transfuse votre petite sœur, ou soit vous payez nos sangs, ceux que nous gardons déjà dans
la banque. Oui.
Mais là, on a demandé le prix. Réellement, on nous a dit, pour un pasteur de sang, vous donnez 30 000 francs. Et vous imaginez que c'est le sang que moi-même, à des fois, j'avais donné en passant gratuitement. Mais quand il s'agit de sauver la vie, maintenant, on impose une somme-là exorbitante. Raison pour laquelle, moi, je peux dire, je peux insister toujours, il faut que quand on donne le sang qu'on paie, parce que la santé n'a pas de prix, on dit très bien qu'on donne le sang pour sauver la vie. Mais là, dès qu'on arrive à l'hypothèse de sauver la vie de quelqu'un, on ne tient pas compte de ces paramètres. Raison pour laquelle l'État doit toujours multiplier des banques de sang et faire tout pour que le service que les peuples ou les hommes donnent aux bénévolats pour sauver d'autres vies, que ce service soit transmis aux autres gratuitement.
Merci, Corneille. Voilà, merci beaucoup, Corneille. Un exemple très clair, des questions très précises aussi pour notre invité. Merci beaucoup pour ça. Pour ça, vous gardez la ligne le temps que l'invité puisse réagir à ce premier groupe d'auditeurs. Nous allons revenir à vous.
Parole aux auditeurs.
Docteur David, vous avez suivi donc le premier groupe d'auditeurs qui ont posé des problèmes assez clairs. Vous les avez notés, si on peut le regrouper par rapport d'abord à savoir s'il faudrait acheter le sang qui a été donné gratuitement. Il y a ces problèmes de la sensibilisation, il y a les problèmes d'encadrement des donneurs. Il y a aussi ces problèmes de manque de poches vides. Il faut aller les acheter dans un centre de santé, chercher. Voilà, tous ces problèmes, toutes ces inquiétudes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces auditeurs?
Merci beaucoup pour toutes ces questions. Ça montre effectivement que le problème de sang est un véritable problème de santé publique. Mmh. Effectivement, comme vous l'avez bien résumé, il y a des problèmes liés à l'accessibilité, n'est-ce pas, au sang, par rapport au coût de ces soins des unités. Il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a aussi des problèmes d'éthique, n'est-ce pas, de sang. Peut-être que nous allons y aller suivant que les amis ont posé des questions. Si nous prenons par exemple le cas de notre ami de Kikwit qui a parlé de la motivation de sang, parce que lui, il est arrivé et bon, et on lui a demandé en plus, n'est-ce pas, de payer. Et les données,
pour les examens. La famille doit payer les examens.
Exactement, et pour les examens qu'ils font. Mais ce qui est fait, la norme, c'est que quand on arrive au niveau de l'hôpital, les intrants qui sont sur place sont faits de manière à ce qu'on puisse collecter le sang et qu'on puisse, les qualifier sans qu'on puisse donner de l'argent. Ce qui est vrai, c'est que la transfusion, elle est payante, mais le sang, il est gratuit. Quand on dit qu'il y a un coût de cession d'unité de sang, c'est que le coût qu'on met, en réalité, c'est un coût symbolique qui regroupe un ensemble d'actes qui sont posés, mais qui n'est pas le coût de revient, n'est-ce pas, de
l'unité du sang.
Et même du sang lui-même. Mm-hmm. Parce que le sang, ce n'est pas un produit commerçable. On ne fabrique pas de sang, n'est-ce pas, dans une industrie ou quelque part. Donc, les produits biologiques, on ne les vend pas. Mais il y a un coût de revient qu'on puisse mettre sur le fait de produire du sang, Et nous disons finalement qu'il y a un coût de cession qu'on fixe en fonction de tous les paramètres qu'on sait. Mais ce qui est fait à notre pays au niveau du programme, normalement, les intrants sont mis sur place au niveau des hôpitaux et quand quelqu'un, un donneur est prélevé, il n'y aurait pas un coût à pouvoir payer. Ce que nous faisons, c'est de rendre disponible ces intrants au niveau d'abord de notre centre provincial de transfusion et qui les distribue au niveau des hôpitaux. Et dès que c'est distribué au niveau des hôpitaux, normalement, on ne devrait pas demander de l'argent pour les tests qui sont effectués. Si j'ai bien, je vais le dire. Donc il y a un coût de cession d'unité de sang, mais non pas pour le coût d'unité.
Ouais.
Et notre ami dit qu'il a, c'est un litre contre 6. Non. Une unité, c'est 450 millilitres. Et peut-être ici, il avait besoin de 2 unités. Et donc tous ces problèmes, normalement, sont, réglés avec notre coordination provinciale qui est sur place. Parce que ça varie d'une province à une autre. Il y a notre ami quelque part qui a dit que c'est lui, c'est 30 000 francs, et ainsi de suite. Donc ces prix-là, ils varient d'une province à une autre. Mais toujours est-il qu'il y a un coût de cession d'unité de sang, mais on ne voit pas le sang en tant que tel. En Afrique, le coût de cession d'unité de sang, d'une manière générale, il est à 50 dollars. Les études ont démontré cela.
Mm-hmm.
Mais dans notre pays, c'est pratiquement subventionné. Et donc le gouvernement, avec tous les structures qui sont mises en place, réduit ses coûts de manière à ce qu'il puisse être accessible au niveau de la communauté. Et c'est comme ça qu'il varie à des endroits à 6 dollars, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Il y a notre ami
De Victor, lui il a parlé qu'il faut aller acheter des poches vides dans des pharmacies, des trousses, et puis revenir à l'hôpital pour qu'on cherche un donneur, et puis après, bon, il a abordé le même problème de Victor, c'est plutôt plus par rapport à l'encadrement.
Oui, il a parlé de l'encadrement du donneur à Wadikal.
Oui.
Ce qui est vrai, c'est que il faut qu'il se rapproche de notre, de médecin chef de zone du niveau de l'hôpital général. Parce que
voilà.
Quand nous intervenons dans les zones de santé, c'est via le médecin chef de zone où nous renforçons la capacité de toute l'équipe cadre des zones de santé à ce qui concerne la sécurité transfusionnelle. Là, nous leur donnons toute l'information par rapport, n'est-ce pas, à comment encadrer les donneurs, comment prescrire, comment aller vers la communauté pour qu'on puisse sensibiliser, les donneurs de sang. Donc, au niveau de la zone de santé, il y a toute une équipe cadre qui est formée et qui connaît toute la norme à ce qui concerne les cibles vers où ils peuvent aller pour qu'on puisse trouver les donneurs et comment ils peuvent donner leur sang au niveau de l'hôpital général de référence.
Voilà. L'ami de Wadikal, bon, vous avez déjà répondu en parlant du prix par rapport au sang, mais il est revenu sur une considération purement technique, hein, parce que notre ami de Kipit a parlé d'un donneur universel. Ça peut permettre aux électeurs de comprendre qui donne à qui un peu plus rapidement. Cela permet aussi à répondre à Marc de Kinshasa qui disait on doit savoir si le sang est compatible avec le receveur. En quelques mots, techniquement parlant, comment on peut comprendre ça?
En quelques mots, si on peut dire, il y a il y a le groupe A, il y a le groupe B, il y a le groupe AB, et puis il y a le groupe O, comme on appelle, n'est-ce pas? Mais il y a là-dedans ce qu'on appelle la transfusion isogroupe. Normalement, celui qui est du groupe A ne pourrait donner qu'au groupe A.
Mm-hmm.
S'il ne le donne pas de cette manière-là, donc, il y aura des problèmes de compatibilité,
voilà.
On peut avoir de tout.
Mm-hmm.
Mais ce qu'on appelle le groupe O, c'est le groupe 0. Donc celui-là, c'est celui qu'on on dit, n'est-ce pas, qu'il peut donner à tout le monde.
Tout le monde.
N'est-ce pas? Tandis que le groupe AB, c'est le receveur universel, il peut recevoir de A, il peut recevoir de B. Et donc ça, c'est très important.
Mm-hmm.
Mais ce qu'on on préfère en matière de transfusion, c'est qu'il y ait des transfusions qu'on appelle isogroupes. Que celui qui a son groupe, il puisse donner à celui qui a son groupe et qu'il, recevoir de qu'il puisse recevoir également de celui-là. Sinon, il y a, n'est-ce pas, des problèmes à ce qui concerne la compatibilité.
Mm-hmm.
Moi, je crois que plus simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupe 0, celui-là, c'est un donneur universel,
mm-hmm.
et le groupe AB, c'est un receveur
universel. Voilà. Le problème de déficit de sensibilisation qui a été contribué par notre ami de Kanangalayo.
Mm-hmm. Oui, ça, donc, quand il parle de problèmes de déficit de sensibilisation, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un problème où il faut appuyer. D'abord, la sensibilisation, c'est lié aux hommes. Le changement des comportements, Ok, c'est tout un processus. Il faut que nous puissions faire des efforts et multiplier des stratégies pour que les gens adhèrent aux dons bénévoles et des sangs. C'est un problème qui concerne l'homme. Or, le changement de l'homme n'est pas facile, mais il faut multiplier des stratégies. C'est comme ça, par exemple, que nous allons, en passant par des églises, nous allons dans les milieux universitaires, nous allons dans des écoles, et nous allons même auprès des jeunes, dans des milieux qui sont bien organisés, où nous avons des associations de donneurs. Donc, nous pensons que la sensibilisation, effectivement, il faut l'accroître de manière à ce que nous puissions toucher le plus grand nombre possible, mais il faut y aller en insistant. Il ne faut pas qu'on s'arrête, parce que le changement de l'homme, c'est pas facile. Donc, il faut que nous puissions continuer à sensibiliser, et pour cela, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'utiliser toutes les voies possibles que nous pourrions avoir pour la sensibilisation.
Et parce qu'il a parlé de, Marc a parlé de France Défenseurs, France de nos villages, il s'inquiète s'il y a le matériel pour le test, pour les examens, et quelles sont les maladies qui sont concernées, les examens qui peuvent être écartés quand on fait les tests. Est-ce qu'on peut avoir ce matériel, surtout pour les tests dans les enfants, dans beaucoup de nos centres de santé au village?
Moi, je crois que la question de Marc est tellement pertinente, dans la mesure où il faut qu'il sache d'abord que notre pays s'est engagé, n'est-ce pas, dans la politique de sécurité transfusionnelle pour qu'on puisse, n'est-ce pas, l'étendre, la diffuser au niveau de tout le pays. Et ce que dit Marc, c'est tout à fait vrai. Mais nous agissons au travers des structures qui sont mises en place. Et une fois que le gouvernement a mis le programme national de transfusion sanguine en place, le programme de transfusion agit avec, n'est-ce pas, les structures qui sont les centres provinciaux et ainsi que les hôpitaux, donc les zones de santé. À ce moment-là, tous les efforts de sensibilisation sont canalisés par cela. Mais en même temps, pour que nous puissions avoir d'autres bras qui viennent à notre aide, c'est comme ça qu'il y a des associations. Les fonds sont donnés. D'ailleurs, l'État continue à ce qui concerne l'appui à la transfusion. Nous avons eu un financement assez important du gouvernement cette année-ci. Et à ce moment-ci, il y a des tests qui sont en train de distribuer. Et on a même, affecté de fonds, des collectes et des sensibilisations au niveau des provinces, voilà. De telle manière à ce que nous puissions augmenter le nombre, n'est-ce pas, de donneurs bénévoles. Voilà donc les efforts que le gouvernement est en train de faire.
Voilà, merci docteur. On a répondu, je crois, de manière globale aux préoccupations de nos auditeurs, parce que deux fois les préoccupations se croisent et se ressemblent. Faustin, vous êtes à Dambou, en province orientale, et Périvier à Takalimi. On va lire le message de Olivier Kabataki qui fait Kinshasa. Ici, nous constatons que même dans des grands hôpitaux, il arrive qu'il dispose d'une quantité très faible de sang à transfuser. Le garde malade est obligé de faire des courses dans divers hôpitaux pour y trouver du sang. Or, pour moi, la responsabilité devait revenir à l'hôpital. Et il arrive que le médecin dispose de sang dans leur cabine, mais ils le vendent trop cher, il faut vérifier tout cela. Exige un paiement sur place avant la transfusion. On a expliqué pourquoi on exige le frais. Trésor Sengay Basile qui est à Goma, plusieurs problèmes se posent dans les cas d'urgence. Le médecin demande souvent au responsable du malade de chercher lui-même un volontaire pour faire les dons de sang alors qu'il y a une banque de sang dans l'hôpital. Cependant, on se demande à quoi sert cette banque de sang. Christian Kimbende loi à Boutembo. À Boutembo, il y a un groupe de volontaires qui donnent le sang qui est emmagasiné dans des banques de sang des hôpitaux de référence. Cependant, quelques patients refusent de se faire transfuser à cause de leurs croyances religieuses et d'autres qui ne connaissent pas leurs états sérologiques causent des problèmes aux médecins. Olivier Kabata à Kinshasa, pour ce qui est du don de sang, ils doivent sensibiliser les personnes qui hésitent. Et par là, j'ai une question. Il paraît qu'une personne qui donne régulièrement son sang, c'est-à-dire plus de 3 fois, aura des conséquences néfastes pour sa santé. Est-ce vrai? De donner beaucoup du sang, est-ce que c'est mauvais? L'invité peut nous répondre, il va vous répondre, monsieur Olivier. Marthe Louise Cam Sars dit ceci, l'accès au sang ou les dons bénévoles du sang reste encore un sérieux problème suite à certaines croyances qui n'acceptent jamais dans leur foi que quelqu'un vienne au monde, vienne au secours ou donne du sang à un autre membre de leur religion. Faustin et Pervier, on va vous accorder la parole après quelques secondes.
Le sport sur Radio Okapi est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres haut, débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapistero. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Constant, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Dambou, c'est ça?
Oui, je suis à Dambou, à 40 km au nord de Bouna.
Au nord de Bouna, 40 km. On vous écoute par rapport à l'accès au service de transfusion sanguine. À Dambou, vous êtes pour Constant?
Bon, à Dambou, je suis dans la zone de santé rurale de Dambou, à l'hôpital général de Dambou. À l'heure où je vous parle, nous sommes à une cinquantaine de transfusions depuis le premier. Alors, quant aux d'autres sorts, ce que nous aimons bien ici à Bambou, c'est surtout les membres de la famille, du malade ou du receveur, puisque biologiquement ou génétiquement, c'est sur ceux-là qui peuvent être vite sélectionnés que de chercher beaucoup d'autres personnes pour donner le don du sang. Puis, quant à la banque du sang, en tout cas, nous n'avons même pas du courant électrique ici pour alimenter la banque du sang, s'il y en avait. Malheureusement, il n'y en a pas. C'est vraiment très souhait que nous puissions en avoir ici à Bambou sur place, parce que ces deux derniers mois, en tout cas, nous connaissons beaucoup de cas de transfusion, surtout pédiatrique. En tout cas, c'est mieux si on avait une base de ça, on pourrait vite sauver la vie. Mon constat est que beaucoup de parents qui viennent avec leurs enfants refusent le sang qui a été déjà conservé, ils refusent, donc ils doutent, je ne sais pas. C'est peut-être une question de sensibiliser cela. Donc, qu'ils sachent que ça a été testé, ça n'a pas de problème. C'est ça la question.
Voilà, merci Constant. On comprend que vous êtes infirmier à l'hôpital général de Recense et d'Ambou, 40 km des Bounia. Vous avez témoigné que depuis le premier, jusqu'en ce moment, vous avez déjà en deux semaines 50 transfusions. Donc vous êtes très inquiet. Vous souhaitez avoir une banque de sang, mais il y a un problème, c'est la méfiance des membres de famille quant au sang qui est conservé. Quelles sont les garanties? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de sensibilisation. Merci beaucoup de ce témoignage, Constant, à Dambou, en province orientale. Et Pervier, vous êtes à Calémi, c'est dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous.
On vous écoute, Pervier.
Oui, moi je dirais que comme Calémi est considéré comme une ville acceptée de l'endémie. C'est-à-dire quoi? Vous trouvez pas par jour qu'il y a plus de 60 à 80 cas d'endémie. Vous trouvez que la question de survie, c'est ce qui prendrait là, n'est pas abordable. Parfois, c'est comme s'il n'y avait pas les gens. Où vous trouverez dans 60 personnes qui, 60 cas qui sont venus, c'est des personnes qui sont en train de se transférer. Les gens, vous trouverez parfois, certains malades meurent sur le corps là, à cause de ces retards là. Quand on arrive là, on va trouver des gens en train de dans là-bas, pour maintenant les transférer, ça va durer même toute une heure. Non? Et là, on va rentrer dans les mêmes articles. Nous avons des villes, des villages qui se trouvent à côté de Calémie. Et là, je vais ici, même à 10 km. Ils sont obligés de venir jusqu'à Calémie. Puis, à l'état d'Amélie, il est de venir jusqu'à Calémie. Vous trouvez les gens autour de route. Parce qu'il n'y a pas de banque de sang. Il n'y a pas de banque de sang. Moi, je suggérerais, si ce n'est pas possible, dans certaines localités, qu'on puisse même donner des banques de sang avec l'autorisation de transmission du sang. Pour que les gens ne meurent pas beaucoup.
Merci Pervier, ce témoignage de Calémie. On sait que c'est Calémie enregistre beaucoup de cas d'anémie, il y a beaucoup de cas de paludisme, on en a beaucoup parlé dans les émissions sur Radio Capi, 60 à 80 cas d'anémie par jour, il y a des gens qui doivent aussi faire des kilomètres, mais là vous vous plaignez qu'au niveau de l'hôpital il y a un problème de lenteur, n'est-ce pas? On amène le malade, les actes sont posés avec beaucoup de retard, il y a des gens qui meurent, mais vous souhaitez aussi d'avoir l'autorisation que les centres de santé qui sont aux environs de Calémie puissent avoir l'autorisation de transfuser au lieu toujours de recourir à Calémie et des fois les gens meurent en cours de route. Merci beaucoup, Pervier. Nous rentrons à Kamanga avec Mavé. Vous êtes avec nous. Bonjour, Mavé. Mavé, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, on a perdu Mavé. On revient à vous, docteur David. Voilà, mais avant d'écouter le docteur, nous avons déjà Petro qui est à Walikale en ligne. Bonjour, Petro.
Bonjour, Radio Capital.
On vous écoute, vous êtes à Walikale, on a eu déjà un témoignage de Walikale avec Victor. On vous écoute aussi, qu'est-ce que vous pouvez compléter au-delà de ce qu'il a dit par rapport à la transfusion sanguine.
D'abord, je compte vraiment porter une petite correction sur mon appellation, c'est Pedro. En français, c'est Pierre. Et aussi, en passage, je salue mon grand frère, mon monsieur Kouba. Alors, j'aimerais dire ici, au sujet de l'émission du jour, que pourquoi y a-t-il une multiplication de l'anémie actuellement, tandis qu'auparavant, cela n'existait pas? Est-ce que c'est la présence des moustiques, notamment appelés l'anophèle, qui fait à ce que l'anémie puisse se multiplier? Ou bien, c'est quoi? Alors, comme moi, voilà, pour dire que ici chez nous, bien sûr, les cas de persécution, c'est fait avec beaucoup de lenteur, car il arrive des fois où on déclare que l'enfant est frappé par l'anémie, mais que c'est chez vous, exemple à Moubi, à 30 km de Walikale Centre, là où l'on a un seul stock du sang. Une fois vous présentez à l'hôpital général, il arrive des fois où les médecins et les infirmiers passent de l'antenne pour intervenir et directement vous verrez l'enfant vient de perdre la santé et la vie directement. Alors, je recommanderais à l'État congolais de pouvoir redynamiser et renforcer la capacité de nos infirmiers et de nos médecins en rapport avec la transfusion sanguine pour venir en aide la nation congolaise, précisément celle de Walikale.
Merci, merci Petro. Vous souhaitez qu'il y ait des séminaires de renforcement des capacités pour les infirmiers, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, pour le médecin, en ce qui concerne la sécurité transfusionnelle. Et puis, vous avez évoqué ce problème de l'augmentation des cas d'anémie actuellement. Vous avez tendance à avoir, vous voyez qu'il y a une tendance à l'augmentation. Pourquoi cela? L'invité pourra nous expliquer les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de cas d'anémie actuellement. Et David est à Calémy, où nous étions tout à l'heure avec Épervier. Bonjour, David.
Bonjour, Radio Capi.
On vous écoute, David, par rapport à la transfusion.
Par rapport à la transfusion, par rapport à la transfusion à Calémy. À Calémy, par exemple, nous n'avons pas des donneurs. Nous n'avons pas des donneurs à Calémy. Et ce que je dis, c'est que oui, nous avons que les motards qui sont des donneurs payants. Et puis, souvent, nous arrivons à perdre les enfants à cause du manque de donneurs. Et là, on ne comprend pas qui, quand même, aussi, l'État congolais peut aussi, quand même, songer aussi le problème des donneurs
bénévoles.
Vraiment, nous n'avons pas
merci.
Des donneurs bénévoles.
Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, David. Il n'y a pas de donneurs bénévoles, il n'y a que des motards qui sont des donneurs payants. Didier Rachid qui est à Kindou, il y a une banque de sang à côté de l'hôpital général de référence, d'où l'on se contente des volontaires donneurs sur qui à l'hôpital, et leur sang pris en catastrophe sans analyse adéquate au labo expose en danger plus d'un patient à d'autres maladies. Ils pensent que ce sont des donneurs occasionnels et on examine les sangs d'une manière catastrophique selon les termes qu'il a utilisés. Puissant Huawei qui a des bougnats, je pose ma question à l'invité. Avant de donner le sang, le donateur doit se faire examiner combien de mois avant, car dans la phase fenêtre du virus, le virus n'est pas visible. Combien de temps faudrait-il passer les tests avant qu'on donne le sang? Une question directe à l'invité. Ramazan Ide, qui est à Bujumbura, il dit ceci: pour nous, les Congolais de la diaspora, nous faisons une petite visite de quelques hôpitaux d'ici à Bujumbura pour célébrer ensemble cette journée afin de partager les expériences. Et par rapport à la journée, ce qui se fait sur place au Burundi. Nous allons écouter Martin qui est à Kananga et le docteur va réagir à ce deuxième groupe d'auditeurs. Martin, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Yapiro. Je vous appelle à partir de Kananga. Ce que nous avons remarqué, moi j'habite dans les communes de Kananga. On a suspendu la transfusion dans tous les centres de santé, sauf en le centre général de Kanana, et à Kanana, c'est au centre de santé Mamoua Kakame. Maintenant, les malades, pour parvenir à faire cette distance, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup, un taux de mortalité beaucoup élevé. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quelques conseils que nous pouvons donner aux docteurs de transfusion sanguine?
Merci beaucoup,
nous avons remarqué que la transfusion se fait surtout aux enfants qui ont 5 ans et surtout sur les enfants de 5 ans. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces enfants? Parce qu'il y a beaucoup de mortalité, surtout sur ces enfants. C'est ça la préoccupation.
Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Martin. Martin dit ceci, à Kananga, on a suspendu la transfusion, la pratique de la transfusion dans tous les centres de santé, sauf à l'hôpital général de Kananga, et au centre Mamoua Carmel, j'ai bien noté, à Kananga 2, et ailleurs, les gens ne doivent pas transfuser, et depuis, ils se rendent compte qu'il y a des distances à parcourir et les gens meurent. Pourquoi l'anémie est très, très élevée chez les enfants de 0 à 5 ans? Voilà, ce sont ces questions qui ont été posées par ce deuxième groupe d'auditeurs. Nous allons écouter notre invité par rapport à ces préoccupations.
Parole aux auditeurs.
Oui, docteur, il y a ces préoccupations. Pourquoi il y a une augmentation chez les enfants? Pourquoi ne pas disponibiliser les stocks de sang dans le centre de santé, dans la périphérie des hôpitaux généraux de référence? On a eu aussi tous ces témoignages des auditeurs, mais il y a cette question aussi qui est celle de savoir est-ce qu'on peut suspendre la pratique des transfusions dans d'autres centres de santé pour ne autoriser que l'hôpital général? Comment ça a été organisé, voilà, ces autres préoccupations?
Ok, merci pour toutes ces questions et je vais répondre rapidement. Et à notre ami qui est à Bounia, je voudrais dire ceci. Même quand il y a des donneurs bénévoles qui viennent donner du sang, au préalable, ces donneurs bénévoles doivent être, n'est-ce pas, sélectionnés. Ça veut dire qu'il y a toute une procédure qui doit voir si ce donneur bénévole est à même de pouvoir donner du sang, est-ce qu'il est éligible. Donc il y a une sélection tout à fait clinique qu'on fait et qui finira par un test qu'on doit faire pour que nous puissions savoir si ce sang-là, n'est-ce pas, est bon.
La sélection, c'est par rapport à quoi? La masse,
Donc, la sélection, il n'y a pas seulement le poids, l'âge, on va voir d'abord son état clinique, est-ce qu'il est en bonne santé, il y a une tension, est-ce qu'il est en train de prendre un médicament, est-ce qu'il a des comportements, n'est-ce pas, à risque. Cela veut dire qu'il a, par exemple, il a des rapports sexuels sans préservatif, des histoires comme ça. Tout ceci fait que on peut écarter ce donneur à cause du risque qu'il a, à cause de son comportement à risque. Mais à la fin, si on prélève quand même un donneur familial, en plus de toute cette sélection liée à son comportement, il va passer par un test. C'est le test qui pourra donc pouvoir l'éliminer définitivement si c'est bon ou pas. Et notre ami Opérivier a dit que il y a 60 ou 80, n'est-ce pas,
pas d'anémie, il y a beaucoup de lenteur.
Il y a beaucoup de lenteur et il y a donc ce problème d'urgence qu'il faut faire. Mais nous voulons dire à notre ami ceci. D'abord, la transfusion est intégrée au niveau de l'hôpital. Ce n'est pas un service à part. C'est un service qui est donc intégré à l'hôpital. Et donc, le personnel qui est à l'hôpital, il traite en même temps tous les autres cas. Moi, je crois que s'il y a un manque de personnel, ce n'est pas spécifique seulement pour la transfusion. C'est un personnel qui devrait s'occuper en même temps des autres malades de la même manière. Et donc, quand la personne arrive et qu'il se trouve être, à l'urgence liée à l'anémie, donc il faudrait qu'on le prenne en charge comme tous les autres malades qu'on prend. Donc, il n'y a pas une spécificité. Si l'hôpital manque de personnel, c'est que c'est un problème général. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse mettre, la transfusion comme si c'était un acte en dehors. Mais en tout cas, à ce qui concerne notre ami de Walikal, qui a posé la question par rapport à la recrudescence des anémies. Les anémies sont causées par beaucoup de choses. Il y a des anémies par l'ustre, il y a la malnutrition, il y a les hémorragies chez les femmes, par exemple, ainsi de suite. Et donc, à ce niveau-là, nous, quand il parle de la distance que les gens doivent faire, et que pour aller accéder à la transfusion. Au niveau du programme, nous avons fait que dans une zone de santé, on a en plus des zones de santé 5 structures qui devraient, n'est-ce pas, être à même de transfuser. ceci, c'est parce que nous avons des zones de santé qui sont qui ont des espaces hein, qui sont vraiment avec une grande superficie. Mm-hmm. Et donc pour éviter que les gens puissent aller faire de longues distances, on a prévu dans la norme de la sécurité transfusionnelle l'accessibilité à cinq autres structures qu'on appelle postes de transfusion. Donc ce sont des centres de santé de référence où la communauté peut aller accéder au niveau de ces structures pour qu'ils puissent avoir rapidement, n'est-ce pas, le sang. Oui. Le sang.
Mmh. Et Pedro de Walital, il est aussi en train de dire, mais il a insisté sur le renforcement des capacités des infirmiers, ceux qui travaillent dans la pratique de la transfusion.
Effectivement, nous avons un programme de renforcement des capacités. Mmh. L'IT qui se trouve être au niveau de ce centre de santé de référence doit être formé à ce qui concerne la prescription, à ce qui concerne la sélection, et également le placement, n'est-ce pas, et la surveillance de cette transfusion. Donc ce personnel-là a un programme de formation qui lui permet qu'il puisse rapidement prendre en charge, n'est-ce pas, les cas d'anémie qui sont là-bas. Mmh. Qu'il sache quel type d'anémie, est-ce que c'est un enfant ou si c'est une femme qui est dans quelle situation. Donc à ce moment-là, n'est-ce pas, on peut l'aider.
Il y a notre ami de Calédie qui a parlé des donneurs payants. Bon, lui, c'est un appel lancé pour qu'on organise un service de donneurs à Calédie. À Kananga, c'est la suspension de services ailleurs. Il n'y a que les deux endroits où on doit se faire transfuser. Mais il y a aussi l'auditeur qui a demandé de savoir à quand on doit faire les tests de dépistage, par exemple. Combien de temps avant qu'on puisse donner le sang?
À Calédie, nous avons une banque de sang qui est fonctionnelle là-bas. Mm-hmm. Je crois qu'autour de la banque de sang, il est développé en même temps, n'est-ce pas, un paquet d'activités liées à la sensibilisation. Mm-hmm. En plus de montage, je crois que si les gens s'approchent de la banque de sang, il y a une banque de sang qui a été montée là-bas avec l'OMS, autour de laquelle il y a une activité de sensibilisation qui est faite également sur place. Par rapport à notre ami de Kananga, qui dit qu'il y a une suspension de toutes les structures qui sont sur place là-bas. Ouais. Peut-être, mais il faudrait que nous puissions vérifier avec notre médecin, coordinateur qui est sur place. Mais ce qui est faisable, ce que nous pouvons penser, ce que notre ami voulait dire, c'est qu'on centralise la qualification des unités de sang. Parce qu'il n'est pas permis à n'importe quelle structure de pouvoir, qualifier les unités de sang. Il y a des petits centres qui n'ont pas l'équipement ni le plateau technique requis. Mmh. Maintenant, ce qui est fait et ce qui est encouragé par le programme, c'est quoi? C'est qu'on collecte dans tous ces petits centres, on centralise la qualification et on redistribue les unités qui sont déjà qualifiées et qui sont conservées selon la norme dans toutes ces structures, de telle manière qu'on puisse garantir qu'ils ont des unités qui sont très bien qualifiées, qui sont très bien conservées. Donc nous ne pensons pas qu'on puisse suspendre, parce que si on suspend, il doit y avoir vraiment des cas de décès comme...
Il y a des questions par rapport au test, et puis on va écouter les délais auditeurs.
Ok, par rapport au test, en tout cas, on ne peut pas tester... on peut arriver à faire ce qu'on appelle des banques de sang vivantes. Ça, c'est dans les cas où on sait que, n'est-ce pas, il n'y a pas beaucoup de donneurs, il n'y a pas de dispositifs pour conserver les unités de sang. Mm-hmm. Mais chaque fois qu'on collecte, c'est immédiatement qu'on teste les unités de sang. Donc nous allons en collecte, ça arrive au laboratoire au niveau du plateau technique, nous le testons. Mais ça ne peut pas faire plusieurs jours depuis que la personne vient lui donne son sang directement. Même s'il avait été testé depuis bien longtemps, quand il revient pour donner son sang, on répond les analyses, parce qu'entre-temps, il doit y avoir eu, n'est-ce pas, des comportements à risque, et à ce moment-là, il peut être contaminé. Mmh. Et même là, c'est parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Il faut qu'on fasse attention, il parle de la période de fenêtre et tout ceci. Il y a des tests que nous utilisons aujourd'hui qui nous permettent, n'est-ce pas, de réduire sensiblement la période de fenêtre, si bien qu'on peut se fier aux tests qui sont faits donc immédiatement après la collecte.
Docteur, vous êtes à l'ICACI, bonjour.
Bonjour, monsieur Péo.
Vous avez 30 secondes, parce que vous êtes le dernier auditeur, malheureusement, pour vous. 30 secondes, on vous écoute par rapport à ce qui se passe à l'ICACI.
Oh, j'aimerais juste poser une question à notre invité. Il y a des gens qui n'acceptent pas la transition sanguine. Et notre constitution garantit qu'il est possible à quelqu'un d'accepter ou de refuser le traitement qui lui est proposé. Au niveau de la médecine, qu'est-ce qu'ils disent si quelqu'un refuse? Parce qu'ils sont là jusqu'à des choses telles qu'un médecin refuse de traiter un patient. Qui n'accepte pas la
transfusion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces patients-là? On va vous répondre. On lit aussi ces préoccupations rapidement. Patrick, quand vous avez des bougimailles, dans mon milieu, au départ, les gens sont suffisamment très mal nourris et prennent suffisamment de l'alcool indigène, et c'est déjà un danger qui s'impose à l'égard des personnes bénéficiaires du sang. Les modes de conservation ne sont pas bons, il faut le revoir. Ça, c'est Patrick de Mougimaï. Prosper Lungier et de Bukavu, dans l'ancien temps, sur la carte d'identité, on indiquait les groupes sanguins de la personne, et cela permettait la transfusion sanguine rapide en cas d'urgence, par exemple, en cas d'accident, en cas de d'une hémorragie quelconque actuellement, il se pose trop de problèmes d'accès au sang en cas d'intervention rapide dans ce sens, ce que beaucoup de personnes ne savent pas d'abord leur groupe sanguin. Ne serait-il pas mieux de sensibiliser davantage la population sur la nécessité de connaître son groupe sanguin? Steve Nawej de Kananga, je proposerai ceci: en cas de perte sanguine par une intervention chirurgicale, qu'il y ait des techniques pour arrêter l'hémorragie. Il faut aussi recourir modérément à la médecine traditionnelle, car il y a certaines plantes qui font augmenter le volume de hémoglobine. Appliquons l'érythropoïétine combinée, c'est apparemment inséré dans les domaines. Et enfin, fiston Jacques Mistaki de Goma, un constat généralisé est que les agents de la banque de sang n'ont pas les soucis de connaître l'état de santé du donneur. Plutôt, ils ont seulement besoin de sang, et encore une inquiétude, c'est que ces agents reçoivent gratuitement le sang, mais ils les revendent à un prix un peu élevé. C'est pourquoi même il y a un manque de sang dans la banque à certains moments. Voilà, docteur, on a une minute, c'est juste une minute pour conclure cette émission. Les dernières préoccupations, je remarque avec la conclusion à la fois en une minute.
Ok, récit de transfusion est révélé plusieurs fois. Nous sommes à présent, c'est un problème vraiment de la loi. Et il faut que notre pays puisse... il y a un projet de loi qui est proposé par le programme pour que on puisse avoir une loi sur la sécurité transfusionnelle, parce que la santé de la population dépend de l'État. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se faire. Prochainement, on va trancher sur cette affaire. Il faut qu'il y ait une augmentation de la sensibilisation. Ça, c'est évident. Voilà. De manière à ce que nous puissions avoir suffisamment de données.
Okay.
Et puis... il faut qu'on puisse savoir, n'est-ce pas, et c'est que nous, comme nous avions dit, c'est un souci pour le programme de pouvoir faire la sélection du donneur. Et c'est quand quelqu'un vient, cette sélection-là, elle est tout à fait
là-dessus. Voilà,
donc.
Merci, merci d'avoir répondu à cette préoccupation des auditeurs. On se retrouve demain, vendredi, pour les derniers numéros. La journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année et la RDC y participe depuis 22 ans. Dans la situation de l'enfant congolais, il semble être le moins meilleur selon certaines opinions. Quelle analyse faites-vous de la situation de l'enfant congolais dans votre milieu et que faire pour l'améliorer? On se retrouve demain à 11h30. Au revoir.